Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
Vous venez d'atterrir à Chérie J'arrive sur zone de schiste 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi de 16h à 17h30.
Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
Vous aimez découvrir de nouvelles niches musicales et sortir de votre zone de confort? La Lézarde vous invite dans son repère sonore, une émission de radio dédiée aux découvertes musicales inusitées, rafraîchissantes et audacieuses. Votre hôte Kim Rose Marlowe vous attend les lundis à 11h avec un contenu éclectique et surprenant. La Lézarde, c'est sur Chiz 94.3.
Anne-Laurie Didaté, âge inconnu, Vadsø, Norvège, 16 février 1621. Accusée de pratiquer la sorcellerie, a été soumise à l'épreuve de l'eau, ordalie et a flotté. Jugée coupable de pratiquer la sorcellerie, condamnée à la mort par le feu sur le bûcher.
Premier acte, en collaboration avec Le Moi Multi présente, Féminicide, une histoire mondiale. Une production du Théâtre d'Olympie, d'après l'ouvrage dirigé par Christelle Tarot, du 27 janvier au 7 février 2026. Pour les billets, visitez premieracte.ca.
Premier acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse des Jardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire, Hydro-Québec, Le Soleil et la Fabrique culturelle.
Étudiants et étudiantes de deuxième cycle, connais-tu les services offerts par l'Allier? C'est facile. Les assurances collectives, la SEC, le soutien financier, comme on dit, accompagnement droit étudiant, les retraites de rédaction, l'agenda universitaire, les services aux assos et le pass universitaire. Pour nous rejoindre, c'est facile. Envoie juste un courrier à allier@commercial.ulaval.ca.
Le festival Le Focof est de retour à Québec du 13 au 21 février prochain pour sa 12e édition. Présenté par SiriusXM, cette grande célébration de la musique émergente et alternative fera vibrer la capitale avec près de 100 artistes. Viens faire le plein de découvertes musicales et entendre notamment Gabé, Afternoon Bike Ride, Laura Nikwe, Mess et Wizard. Tous les détails au focoff.com. Cherche une salle professionnelle abordable pour produire un événement en plein cœur du centre-ville de Québec? Un atelier privé ou un espace commun pour travailler sur ton entreprise culturelle? Que ce soit pour la musique, le montage vidéo, la photo, la couture, le tatou ou tout autre projet créatif, le Centre est là pour toi. Pour en savoir plus, appelle au 418-261-6969 ou écris-nous sur Instagram et Facebook en cherchant le Centre Hub Créatif. Le Centre, ton lieu de création en plein centre de Québec.
Vous êtes à l'écoute de Chérie J'arrive, votre retour culturel alternatif ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et pour débuter l'émission d'aujourd'hui, on va parler avec Julie Collin, responsable des événements et des communications chez la librairie La Liberté. Par la suite, à 16h30, on va parler avec le programmateur des salles Grizzly Fuzz et l'Impérial Belle, David Ouellet. On va parler des shows à venir dans ces deux salles de la ville de Québec. Et à 17h, on va parler littérature historique avec Alex Tremblay-Lamarche. Et naturellement, on peut pas être mardi sans vous faire découvrir toutes les dernières nouveautés qui ont sorti depuis vendredi. Fait qu'on va écouter aussi pas mal de musique. Yes, sir! Alors, tel qu'annoncé, je suis très heureuse de retrouver, comme toutes les une semaine sur deux, votre chroniqueuse de littérature, Julie Collin. Bonjour!
Allô, allô!
Alors, Julie, tu chroniques ici à Chez J'arrive, mais dans le cadre de tes responsabilités des événements et des communications chez la librairie La Liberté.
Ouais.
Et là, vous venez de lancer le défi lecture 2026.
Yes! Ah, je suis assez contente de ça. Ça fonctionne super bien à date. C'est très récent comme défi. Ça a été lancé la semaine dernière. Donc, on invite les gens à lire. En fait, il y a 10 catégories puis une bonus. Donc, il y a 11 possibilités, si on veut, pour découvrir différents livres dans différents genres complètement. C'est assez éclaté, c'est très différent d'une catégorie à l'autre. Et les gens courent la chance de remporter un certificat cadeau de 50$ qui sera tiré en début d'année prochaine. Ça me donne un petit peu le vertige. Je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai un peu de misère à me projeter dans l'avenir.
100%.
Puis quand j'ai écrit janvier 2027...
Ben même quand moi je l'ai lu, puis j'ai lu jusqu'au 31 décembre qu'on avait, que les gens ont participé jusqu'au 31 décembre 2026, j'ai comme relis la phrase deux fois.
T'étais comme, on est-tu vraiment 2026? Mais ben voyons donc. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que, ouais, quand j'ai écrit les règlements en bas, je me disais, oh là là, tu sais, en janvier 2027, nous le ferons tirer. Donc, oui, vous complétez les 10 catégories obligatoires, si on veut. On vous souhaite aussi de faire le petit bonus. Puis après ça, vous venez nous porter ça à la librairie et on va faire le tirage d'un certificat cadeau de 50$ pour que vous puissiez découvrir encore plus de livres. C'est extraordinaire.
Ben,
donc, c'est super gagnant.
C'est ça, c'est une belle opportunité de, comme peut-être pour les lecteurs et lectrices aguerris qui nous écoutent, qui aiment justement, qui ont, des fois, il y a comme... Je sais pas si ça te fait ça aussi, mais moi, j'ai des phases de, comme, lecture. Fait que, pendant un bout, je vais comme lire plus, mettons, de poésie.
Mm-hmm.
Ah, là, pendant un bout, j'aime ça lire des essais collectifs. Ah, j'aime ça. Fait que, tu sais, on dirait que ça change. Puis des fois, on reste dans ce petit carcan-là de ce qui nous tente plus de lire, mais que, justement, je trouve qu'un concours comme ça, ça nous permet de peut-être sortir de nos lectures habituelles puis de découvrir peut-être, d'ouvrir nos horizons en tant que lecteur
absolument.
Et lectrice.
Absolument, ça aide à aller un petit peu ailleurs. Des fois, on peut être un peu déstabilisé. Puis c'est là que le rôle d'un libraire ou d'une libraire est important parce que nous, on peut vous conseiller.
Mm-hmm.
On peut vous dire, ah oui, dans cette catégorie-là, ben je vous suggère ça. Il y a ça, par exemple. Est-ce que ça vous plairait? Ça parle de ça. Fait qu'on peut vous accompagner là-dedans. On ne vous laisse pas là, tout seul dans la jungle littéraire avec votre feuille. Là. On peut vous accompagner pour que vous réussissiez votre défi. Puis nous, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est rejoindre à la fois des gens qui fréquentent la librairie parce que c'est des gens qui sont habitués, qui nous connaissent et tout ça, mais aussi les gens qui, a priori, sont un peu réfractaires à aller en librairie, qui sentent qu'ils n'ont pas les codes, qui sont pas des super grands lecteurs. Hey, c'est 10 livres. C'est pas beaucoup, là. Tu sais, ça peut sembler beaucoup pour certaines personnes, puis c'est correct, ça peut être un défi à ce niveau-là, mais reste que 10 livres, c'est réaliste pour quelqu'un qui lit pas tant que ça.
Mm-hmm.
C'est même pas un livre par mois.
C'est ça.
C'est possible. Il y a des petits livres dans la vie. C'est pas toujours des grands livres super volumineux. Puis tout ça, c'est qu'il... En tout cas, bref, il y a quelque chose à faire avec ça. Fait que moi, je me suis donné comme défi cette année là, de vous présenter des livres dans chacune des catégories en 2026 pour vous accompagner aussi dans votre défi. Donc, c'est super simple si vous voulez relever le défi. Il y a des exemplaires papier déjà imprimés à la librairie au comptoir. Sinon, il y a un lien aussi où on peut trouver le formulaire puis on peut le télécharger. C'est vraiment une page, là. C'est une petite page 8,5 par 11,
ouais,
très simple. Donc, vous pouvez la télécharger. Si vous allez sur nos réseaux sociaux, Librairie La Liberté, vous allez trouver très facilement le défi. Là. C'est facile, facile à trouver.
Oui, c'est dans votre LinkedIn?
Linktree,
c'est ça, Linktree.
Oui, c'est là. On peut le trouver un petit peu partout là, sur nos réseaux. Très, très, très facile. Puis si vous le trouvez pas, mettons, en ligne... Là, mais appelez-nous, puis on va vous guider. Là. Il n'y a vraiment pas de stress. Non, mais vraiment, il n'y a pas de stress. On veut vraiment que vous réussissiez à relever le défi. Donc, je vous nomme les catégories.
Ben oui, c'est ça.
Ben oui.
C'est
ça. Un livre d'un auteur ou d'une autrice de Québec. Un livre finaliste ou lauréat du prix Jacques Brossard. C'est un prix qui récompense la science-fiction. Une pièce de théâtre. Un livre dont la couverture contient du verre. Un livre recommandé par un ou une libraire, puis c'est pas nécessairement les nôtres. à la librairie La Liberté. Ça peut être un libraire ou une libraire de votre choix. Là. Il n'y a vraiment pas de stress là-dessus. On ne vous demandera pas des comptes. On ne vous demande pas c'est qui le libraire ou la libraire. Ce qu'on veut, c'est quel livre.
Mm-hmm.
Un livre traduit au Québec. Donc, on va aller vers une traduction. Un livre étranger ou écrit... Ça peut être un livre aussi d'ici. Il y a des livres qui sont écrits au Québec en anglais et qui sont traduits en français au Québec. Un roman tchèque, parce que notre gérante est tchèque, donc on se disait que ça serait chouette aussi, puis ça, c'est un peu déstabilisant comme catégorie, parce qu'on se disait, j'en connais-tu des auteurs tchèques? Ben oui, vous allez en découvrir grâce à nous. Si vous en connaissez pas déjà, ça va nous faire plaisir. Un ouvrage collectif, un livre de poésie, un livre écrit au 19e siècle, donc dans les années 1800, et en bonus, c'est pas obligatoire pour participer, mais on vous invite à découvrir ça, un livre audio. C'est une autre façon de lire, d'apprendre, d'être diverti ou peu importe. Puis des fois, on pense pas à ça. C'est que nous, on s'est dit, les gens vont penser aux livres audio. Il y en a, je vous en présenterai éventuellement là, quand on sera rendu là, mais il y en a des gratuits aussi. Il y en a des qui coûtent des sous, on peut en emprunter à la bibliothèque. Il y a toutes sortes de formules. Nous, là, on vous demande pas, avec ce défi-là, votre facture pour prouver que vous avez acheté le livre chez nous, c'est vraiment pas ça. Nous, on veut vous divertir avec ce défi-là.
Puis encourager les gens à juste lire, tu sais. Puis même,
c'est ça.
T'sais que vous, même si un livre, vous voulez le louer justement à la bibliothèque, mais pourquoi pas, tu sais.
Absolument. Puis j'en
profite. L'emprunter à un ami.
C'est ça. Puis j'en profite pour dire que les bibliothèques achètent les livres à plein prix en librairie agréée, dont nous sommes. Donc quand vous empruntez un livre à la bibliothèque, le livre est acheté à plein prix. L'auteur a reçu son montant. Tout le monde reçoit ses sous.
Ah, c'est la juste bonne façon. Je savais pas ça.
Ouais,
c'est très cool.
C'est toujours comme ça. Et en plus, les auteurs, les autrices peuvent s'inscrire à un programme et ça permet d'avoir un montant quand les livres sont empruntés en bibliothèque. Là. Donc, ça serait un peu compliqué de donner les détails de tout ça, puis c'est pas nécessairement important, mais ce programme-là l'est pour les auteurs, les autrices. Donc, à peu près tout le monde sait qu'il faut s'inscrire à ce programme-là pour avoir un montant. Et il y a certaines personnes qui écrivent que c'est un montant qui est significatif dans leur année, ce montant lié aux emprunts en bibliothèque. Donc, c'est pas irrespectueux envers les autrices ou les auteurs d'aller emprunter un livre à la bibliothèque. Ça fait partie de la chaîne. Il n'y a vraiment aucun stress là-dessus. Donc, moi, quand on me dit « Ah, ce livre-là, je vais aller me chercher à la bibliothèque », ben d'accord, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je fais ça. Hein.
Mm-hmm.
C'est pas vrai que j'achète tous les livres que je lis là. Ça serait un peu fou.
Ouais, tu sais, c'est pas comme ça que ça se passe. Plus de place aux livres.
Mais c'est ça, c'est que j'ai une carte de bibliothèque moi aussi, même mm-hmm. si je travaille en librairie. Donc pas de stress là-dessus. Nous ce qu'on veut c'est vous divertir, ce qu'on veut aussi c'est vous inviter à venir en librairie, si c'est pas déjà fait, pour venir porter votre coupon de participation. Ça peut être ça, là. Ça peut être une première fois que vous entrez à la librairie La Liberté. Moi, ça va me faire plaisir que vous veniez pour une première fois. On fait beaucoup d'événements à la librairie, hein. Les auditrices, les auditeurs le savent. Tu le sais aussi. C'est une question que je demande en ouverture d'événements. Est-ce qu'il y a des gens que c'est la première fois qu'ils viennent ici, puis il y en a toujours? Puis moi, ça me fait plaisir de voir des gens qui découvrent pour la première fois ou qui vont rentrer, on va comme... Je pensais pas que c'était comme ça. Ou il y a des gens aussi qui pensent qu'ils peuvent pas aller dans une librairie parce qu'ils ont l'impression qu'on va les harceler pour qu'ils achètent ou ils vont se sentir obligés d'acheter ou peu importe. On n'est pas dans la vente à pression, on est dans le service conseil. C'est complètement autre chose comme philosophie. Fait que, bref, on veut vous voir en 2026, puis on veut que vous réussissiez votre défi. Il y a vraiment un grand engouement sur les réseaux sociaux depuis qu'on le lance la semaine dernière. C'est le fun. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Donc,
et là, aujourd'hui, tu vas nous présenter des ouvrages de la première catégorie, mm-hmm. un livre d'un ou une autrice de Québec.
Absolument, de la ville de Québec. Puis j'en ai choisi 4 pour aujourd'hui, mais...
Mais t'aurais pu en choisir.
Ben, ça peut se calculer en quelques centaines. Là. Il y en a beaucoup de monde qui écrivent ici. On est une ville littéraire UNESCO. C'est pas innocent que j'ai choisi Québec. C'est à la fois parce qu'on est ici, mais aussi parce que c'est une ville littéraire UNESCO. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent. Donc, je commence avec Ursule à bascule, qui est un album jeunesse qui s'adresse aux enfants, je dirais, là, à partir de 5-6 ans. Là. C'est pas un album pour les petits-petits parce que le sujet est quand même pas évident. Quoique un plus jeune pourrait y trouver son plaisir aussi. Après ça, les enfants comprennent ce qu'ils ont bien à comprendre par rapport à ça. Donc, Ursule à bascule, ça a été écrit par Carmen Duplain. Les illustrations sont de Alexa Perchemal. C'est paru chez Dents de Lyon, qui est une maison d'édition très inclusive. Donc, c'est très chouette aussi. C'est une coopérative. C'est vraiment de très belles valeurs qui sont promues à la fois par la maison d'édition, mais aussi par les livres qu'ils décident d'éditer. Donc, c'est Ursule qui est très hypersensible. Ursule a des crises de pleurs, là, mais vraiment, elle qui glace le sang. Tu sais, une grande détresse. Là. Et les parents font tout dans leur possible pour l'accompagner là-dedans. Mais à un niveau tellement créatif, tellement le fun, c'est jamais comme « Ah, arrête de pleurer, maudite fatigante. » C'est pas ça.
On est vraiment dans...
Dans le respect. Ouais. Dans le respect, dans la compréhension, dans comment on peut faire pour que cette personne se sente bien. Tu sais, il n'y a pas de jugement, il y a vraiment là, des trésors d'imagination à l'intérieur de ça. C'est vraiment magnifique. Et à toutes les fois que Ursule est bercée, ça va bien.
Bien, justement, quand on voit la page couverture, tu sais, c'est juste écrit Ursule à bascule, puis on voit Ursule qui est sur une balançoire, tu sais, puis qui a un gros sourire aux lèvres. Fait
c'est ça.
On n'aurait pas tendance à penser que c'est comme ça le sujet, justement. Ouais.
Ça prend toujours un environnement où Ursule peut se bercer pour être bien. C'est qu'est-ce qu'on a besoin pour être bien, pour se sentir bien, pour pas avoir envie de pleurer. Tu sais? C'est que ça amène toutes ces belles questions-là. En tout cas, il y a plein de choses à l'intérieur de ça que je vous laisse découvrir, mais c'est vraiment un album super touchant, poétique aussi. C'est très, très, très respectueux. Puis ça fait vraiment réfléchir. Donc, les enfants, à partir, je dirais, 5-6 ans, comprennent bien ce qui se passe. Tu sais, comprennent, c'est quoi, de la peine. Comprennent aussi que les choses qui nous font du bien, on peut entamer une discussion avec les enfants. Mais comme adultes, là, nous aussi, des fois, on prend pas soin de nous. Nous aussi, on n'est pas à l'écoute de nos besoins.
100%.
Nous aussi, on pile sur nos besoins pour la société, pour les autres. Tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qui nous ferait du bien? Puis j'ai pas pour toi, là, mais moi, j'adore me bercer. C'est que ça me parle, ce genre d'affaires.
Ouais, ben souvent, dans les histoires qui sont adressées aux enfants, j'ai toujours l'impression qu'il y a une partie qui est aussi adressée à la personne qui fait la lecture,
ben,
à
c'est
l'enfant.
C'est l'idéal.
Tu sais, il y a souvent, justement, des petits Easter eggs, là, comme j'aime dire, que des petits messages qui sont adressés aux parents, mais à travers, justement, une histoire qui peut sembler plus enfantine ou plus adressé justement à la jeunesse, mais les parents et les personnes qui lisent à des enfants en sortent avec des apprentissages aussi, là, ou des réflexions, du moins.
Mais c'est l'idéal quand c'est des livres qui peuvent permettre d'avoir à la fois un message pour les enfants puis pour les adultes, parce que ça rend le moment de lecture plus agréable pour les deux.
C'est vrai.
Puis ça fait des belles réflexions. Puis souvent, les livres jeunesse, là, c'est à partir de... C'est pas maximum.
Il n'y a jamais de maximum, ça,
non,
c'est vrai.
Non, c'est ça. Fait que c'est à partir... Là, je vous dis 5-6 ans comme minimum, mais c'est pas comme genre « Oh, attends, t'as 17 ans, ça, c'est plus pour toi. » C'est pour tout le monde. Hein. C'est juste à partir de... Parce qu'un enfant, je pense, de 3 ans, va aimer les images, mais comprendra pas l'histoire. T'sais. Il va prendre ce qu'il a besoin. Il n'y a pas de stress là-dessus. Il n'y a rien de traumatisant là-dedans pour un enfant qui est plus jeune. C'est juste que les enfants de 5-6 ans vont comprendre quelque chose déjà. Ça va être plus intéressant. Donc, c'est Ursule à bascule de Carmen Duplain. C'est des illustrations de Alexa Perchemal. C'est paru chez Dents de Lyon. Ensuite, je vous amène complètement ailleurs un livre pour adultes qui s'appelle Les Constellés. C'est de Daniel Grenier, paru chez Marchand de Feuilles. Un ouvrage de 600 pages qui devait en faire beaucoup moins. Et c'est le journal de lecture de Daniel Grenier pendant une année complète, donc pendant l'année 2019, Daniel Grenier n'a pas lu de livre écrit par un homme. Non, non. Donc, ça a été soit des personnes femmes ou non-binaires, aucune personne masculine là-dedans, c'est non. Tu sais, c'est pas ça le projet. Donc, ça a été instauré par ce projet-là dans sa tête, par son éditrice qui lui a dit « Je pense que tu serais un bon candidat pour faire cet exercice-là. » S'inspirer d'un exercice qui avait été réalisé ailleurs quelques années plus tôt. Donc, Daniel Grenier a divisé son année en 12 pour les 12 mois et c'est 12 thématiques. Par exemple, les femmes qui ont été empêchées d'écrire, il y en a eu, hein, des femmes qui ont dû écrire sous pseudo ou qui ont eu une renommée après leur mort. Il y a aussi le corps qui est exploré, les femmes autochtones, la littérature queer. Il y a vraiment plein de sujets à l'intérieur. Donc, on suit ces réflexions, puis aussi toute la déconstruction. Parce que Daniel Grenier, c'est un écrivain depuis plusieurs années, c'est un traducteur, c'est quelqu'un qui a un post-doctorat, c'est pas deux post-doctorat en littérature. Donc, il s'y connaît vraiment beaucoup. Il a appris des choses à l'université, mais il y avait des choses à déconstruire aussi. Et cette année-là lui a permis de déconstruire certaines choses et de reconstruire par la suite. Il y a même des réflexions sur ses propres écrits qu'il voit d'un œil nouveau grâce à ses lectures. C'est que c'est un livre qui en contient énormément.
100%.
C'est un livre sans fin, là. C'est fou, là. Ce livre-là va vous permettre de compléter d'autres catégories.
Ouais, c'est ça. Ça va vous donner d'autres recommandations de lecture. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est comment t'as nommé que, ben, tu sais, ça l'a aidé à déconstruire des choses qu'il a appris. Puis je trouve que c'est la preuve qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre puis pour se remettre en question.
Absolument.
Sur des apprentissages qu'on a faits ou des choses qu'on prend pour acquis dans notre quotidien. Puis de justement que cet exercice-là lui a permis de remettre en question peut-être son propre travail en plus, puis c'est peut-être ses propres réflexions.
C'est vraiment intéressant.
C'est encourageant aussi, je trouve.
c'est vraiment le fun à lire. Puis c'est jamais une posture où moi, je suis un homme et je connais la vie. Là.
Jamais,
c'est une posture d'humilité, de vouloir découvrir, connaître. Puis en même temps, jamais il va faire comme « Hey, maintenant, j'ai compris puis j'ai la vérité. » C'est plus un livre de questionnement, tu sais, puis de quelques révélations, mais pas des révélations qui font en sorte que tu te sens mal de pas partager le point de vue ou des choses comme ça. Là, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc, c'est un livre que j'ai pigé dedans au fil du temps. Je l'ai lu aussi au complet. Puis, je pourrais y revenir tout le temps. Là. Je pense que c'est le genre de livre qu'on laisse traîner sur une table, puis on y revient une fois de temps en temps. C'est vraiment intéressant comme processus. Puis, comme je disais, ça contient tellement de livres à l'intérieur. Là. Puis, il les présente pas tous avec des textes parce que le livre aurait fait au moins 3 fois. C'est qu'à la fin, il y a la liste de tous les livres qui ont été lus.
Mais c'est comme plus peut-être ou qui parle peut-être plus en particulier de des livres qui l'ont peut-être plus marqué ou qui ont plus...
Il a fait des choix. C'est ça, il a fait des choix aussi pour que ça donne un livre qui a du sens. Là.
Ouais.
C'est qu'il y a eu des choix à l'intérieur de ça parce que sinon, ça serait devenu encore plus immense. Déjà que ça devait être une petite plaquette au départ, semble-t-il. Là. Puis là, c'est devenu un 600 pages. C'est assez costaud comme projet. C'est un livre qui est paru au début 2020, en mars. Je ne sais pas si tu te souviens de cette époque. C'est sûr qu'il n'y a pas eu de lancement. Il a été très ingénieux pour faire découvrir son livre. Là, il allait livrer directement chez les gens qui achetaient le livre et tout ça. Il a trouvé différentes façons. Il y a une courte période où les librairies même étaient fermées. Là. Donc, il a fallu qu'il se débrouille autrement. Puis, il a été très créatif. C'est un livre qui est qui a peut-être pas eu toute la renommée qu'il aurait dû avoir quand il est paru, justement parce qu'on était préoccupé par autre chose. Mais ça vaut la peine de le découvrir. Puis nous, on en a toujours à la librairie La Liberté, là, si vous voulez venir le consulter, par exemple. Puis j'ai vu tantôt qu'il y en a aussi chez Cobzone en haut. C'est que vous pouvez aller le consulter en librairie sans problème si vous voulez juste voir un peu c'est quoi le projet. Donc, Les Constellés, Daniel Grenier, Marchand de feuilles.
Et pour le prochain ouvrage, tu vas nous parler de « Une abeille suffit, carnet d'observation d'un jardin urbain ».
Oui, c'est de Geneviève Boudreau, paru au Norrois. Je suis pas mal certaine que j'en ai déjà parlé ici, parce que c'est un livre dont je parle vraiment souvent.
Même pas, non?
T'es sûre?
Je suis sûre à 100%.
Et ça m'étonne, parce qu'en plus, ce livre-là a remporté le prix de la Ville de Québec l'année dernière, qui un prix qui est remis par le Salon international du livre de Québec. Donc, j'étais certaine que j'en avais parlé ici l'année passée, quand il a remporté le prix. Donc, Geneviève Boudreau habite...
Je sais. T'en as parlé, mais t'étais à distance quand t'en as parlé.
Ah, ça se peut, hein?
Fait que c'est peut-être pour ça que...
Ah, ça se peut, ça. Ça se peut, ça. Puis c'est vrai, t'as raison, parce qu'il me semble que j'avais fait une chronique juste avant d'aller à la remise de prix.
Exactement, exactement.
Oui, ça serait tout à fait logique. Donc, une abeille suffit. En fait, c'est Geneviève Boudreau qui, pendant 2 ans, a observé son jardin. Un jardin urbain, parce qu'elle habite à Sainte-Foy. On n'imagine pas nécessairement un jardin aussi vaste, aussi riche que le sien. Puis en fait, je dis le sien, je devrais dire le leur, parce qu'elle habite quand même avec son conjoint. Et ensemble, ils ont aménagé leur jardin, qui n'était pas un endroit... il y avait une piscine avant, là, tu sais. Puis les autres, quand ils ont acheté, ils ont enlevé la piscine. Ils ont fait en sorte que ça redevienne sauvage. Ils laissent aller les choses. Ils contrôlent un peu, forcément, parce qu'ils veulent quand même arroser et tout ça, là. Puis ça, ils passent beaucoup d'heures à faire ça, d'ailleurs. Puis ils vont s'en occuper, mais il y a quand même tout un réensauvagement du lieu. Donc, c'est l'observation aussi, c'est les abeilles qui reviennent, qui n'étaient plus là, puis des abeilles qu'on connaît pas. Puis en fait, on connaît pas vraiment ça, les abeilles. C'est ça aussi qu'il faut comprendre là-dedans. Il y a beaucoup de types d'abeilles. Puis elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle les prenait en photo. Elle les a apprivoisées, puis ça. Puis dans son livre, elle les dessine. Donc, c'est des dessins. Les abeilles sont très détaillées. Les fleurs sur lesquelles elles sont posées, le sont pas. Donc, l'important, c'est les abeilles, c'est pas le reste. Il y a aussi beaucoup de réflexions sur l'enseignement, parce qu'elle est enseignante. C'est vraiment un ouvrage super riche, très créatif, qui est très inspirant, qui donne envie de porter attention aux vivants, de prendre soin. Puis elle, un des constats qu'elle fait dans ce livre-là, c'est que les abeilles, elle connaissait pas ça non plus. Puis quand tu apprends à connaître, ben tu aimes et tu protèges. Mais si tu connais pas, tu prends pas soin. Tu sais, c'est normal. C'est qu'elle, maintenant, c'est devenu vraiment une très grande amie défenseur des abeilles. Mais c'est pas que ça à l'intérieur du livre. Mais ouais, c'est très, très chouette, très inspirant. Puis pour les gens qui écrivent ou qui dessinent, je pense que vous allez lire ça, puis ça va vous donner envie de créer par la suite.
Intéressant.
Oui, vraiment. Là.
Donc, je trouve ça peut même pour les gens aussi qui ont des jardins en ville ou qui...
Mais c'est ça, eux autres.
C'est ça, ça, je trouve que ça peut être inspirant, puis de se reconnecter, puis de démontrer aussi que c'est possible, justement, de reverdir son chez-soi. Et ça, ouais. Même si on n'a pas nécessairement tout l'espace qu'on voudrait pour le faire, ben c'est quand même possible.
Ben oui, puis dans la foulée de la sortie de ce livre-là, il y a eu différents reportages qui ont été faits. Il y en a eu un à la Semaine verte, par exemple, que vous pouvez écouter en ligne, qui présente le jardin. Donc, ouais, c'est vraiment très, très, très inspirant. Eux autres, c'est autant aménagé à l'arrière qu'à l'avant. Puis, tu sais, pour l'anecdote, ils ont acheté la maison parce qu'il y avait un mur qui donnait sur, j'imagine, le sud, parce que ça serait logique que ça soit ça. C'était un mur qui était tellement chaud qu'eux autres, ils se sont dit, « Hey, on va pouvoir faire pousser des aubergines, là. » Tu sais, c'est ça, la réflexion,
ouais,
là.
Ouais,
tu sais, il n'y a pas personne d'autre sur Terre, à peu près, qui doit se dire ça, là, comme genre, « Hey, des aubergines, nanana. » En tout cas, du moins pas au Québec. On ne se dit pas vraiment ça d'habitude, puis les autres, c'était ça leur ressource de motivation. Donc, très inspirant, c'est « Une abeille suffit », carnet d'observation d'un jardin urbain de Geneviève Boudreau, paru au Norroy. Mon petit dernier, « Éclat de Chantal Gingras », paru chez L'Instant Même, c'est un livre de haïku. Je l'ai amené avec moi. C'est rare, j'amène des livres en studio
c'est
avec
vrai.
Moi.
C'est vrai.
Parce que, ben, c'est ça. Ça fait partie de la vie. Et là, je l'ai amené avec moi parce que je voulais vous en lire 2-3 comme ça. Ouais, je vais faire ça. Je fais tout le temps ça avec ce livre-là. Donc, Chantal Gingras, c'est une écrivaine du bref. Donc, elle écrit... Elle a fait beaucoup de twittérature.
De twittérature,
ouais,
wow!
Ouais, donc des poèmes en 140 caractères ouais. À l'époque. Elle a exploré l'haïku. L'haïku, de façon générale, c'est 3 vers, 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. Ça, c'est le classique en japonais. Donc, qu'elle écrit en français. C'est qu'en français, ça marche pas toujours de même, la vie. C'est qu'elle a un petit peu adapté à notre sauce, mais l'esprit reste là. Donc, c'est souvent dédié à la nature, aux saisons, au règne animal. Elle sort un petit peu de ça par moment. Mais c'est vraiment super intéressant. Et là, je vais vraiment y aller au hasard. OK? C'est vraiment le hasard
ouais,
de
ouais,
la vie.
Je suis témoin. Là.
C'est que, tu sais, je vais vraiment... Puis j'ai n'importe quoi, puis je lis ça, puis j'ai pas pratiqué. Là.
C'est comme... Okay? C'est comme on dirait que je pige une carte d'oracle là, ou de tarot. Ouais. C'est comme notre lecture collective du jour, chère auditrice.
En novembre, Les lumières habillent le soir. Les loutres chatouillent la rivière. Le vent gifle les arbres. La neige refait tous les chemins.
C'est beau.
L'image est là, c'est clair, c'est beau. Puis là, j'étais dans la section la nature, mais tu sais, juste pour. Je vais mettre n'importe où. Ah, je suis encore dans la nature, j'aimerais être ailleurs. Les choses. Averse, le vélo fuit sous la mitraille. Le bois de grève craque et casse comme de vieux os. Comme certaines amours, le croissant s'effrite dès qu'on le touche.
Oh wow.
Non, mais tu comprends, c'est des petites phrases comme ça.
C'est super imagé.
On le voit.
Là, genre, je ferme les yeux puis je le vois direct. Là. C'est
ça. C'est que c'est trois petits vers, parfois quatre. Puis l'image est là. C'est super beau. Ça donne envie d'en écrire aussi. C'est un art, mais c'est un art qu'elle pratique puis qui est possible de développer. Donc, ça s'appelle Éclat. C'est un recueil de haïku, c'est paru chez l'instant même et c'est Chantal Gingras qui l'a écrit. Donc, ces quatre suggestions que je vous donnais pour la première catégorie de notre défi lecture 2026, c'est la catégorie un livre d'un ou une autrice de Québec. Donc, vraiment, première catégorie. Prochaine fois, on parle du prix Jacques Brossard ensemble.
Mmh.
Ouais, ouais, ouais.
Mais là, avant de se quitter, ma chère Julie, tu vas nous proposer deux activités qui ont lieu à la librairie La Liberté, en commençant par une qui a lieu dès ce vendredi 30 janvier, dès 15h30.
Oui, on vous fait déguster des desserts. En fait, c'est grâce à la Petite Châtaigne qui nous a approchés dans les dernières semaines. La Petite Châtaigne, c'est une pâtisserie de Québec. Donc, il y aura dégustation gratuite de différentes choses, dont des galettes des rois.
Miam.
C'est à partir de 15h30. C'est tant qu'il y en aura. Donc, nous, on se dit à peu près jusqu'à 19h, mais s'il en reste plus, bien, il en reste plus. Puis, il y aura aussi des tirages de livres vers 18h30. Et pour l'occasion, on offre aussi, nous, la librairie, notre contribution dans cet événement-là, c'est d'offrir thé et café ou toute autre boisson à 15% de rabais pour accompagner...
Parce qu'on sait bien, un petit dessert, ça s'accompagne bien d'une petite boisson chaude réconfortante.
Oui, un petit quelque chose de sucré, ça va être sympathique.
Et sinon, le mercredi 4 février, dès 17h, vous recevez Rouba Ghazal pour son livre « Les gens du pays viennent aussi d'ailleurs ».
Absolument, c'est un événement qu'on est vraiment content. Moi, je suis en train de lire son livre en ce moment. C'est rare que j'ai des livres sur moi, mais il est dans mon sac, promis. Je suis en train de lire ça parce que c'est moi qui vais avoir la chance de m'entretenir avec elle. Donc, on va discuter de plein de choses ensemble. Ça va être super intéressant. Puis, je tiens à préciser ici que c'est Rouba Ghazal est à Québec solidaire, d'accord. Mais pour nous, c'est pas un événement partisan. C'est pas comme ça qu'il faut le voir du tout là, par rapport à la librairie. On est un lieu où la parole est libre. Hein. Tu sais, nous, on s'appelle quand même la librairie La Liberté. C'est pas pour rien. Puis, dans le cadre de la sortie de ce livre-là, il y a quelques mois, ben, tu sais, nous, on se disait qu'il y avait sûrement des choses qu'on pouvait aborder avec elle de ce livre-là. Puis, je trouve ça super intéressant parce que là, je suis à l'étape où elle parle beaucoup de son enfance. Tu sais, d'où elle vient. Tu sais, c'est quoi son bagage à elle? Et elle vient des deux côtés de sa famille, en fait. Elle vient d'une lignée de Palestiniens qui ont été chassés de la Palestine en 1948-1949, lors de la création d'Israël. Donc, on part de là. Elle a habité aussi... à Dubaï, c'est ça que je cherchais. Donc, j'avais, en tout cas, c'est ça. Bref, j'avais comme une image dans la tête, puis j'étais comme, je vais le dire. Donc, elle habitait à Dubaï, tu sais, elle a fait différentes choses comme ça, puis elle est arrivée ici, elle avait 10 ans, Et c'est vraiment super intéressant là, de voir son parcours. Puis elle fait des liens aussi avec l'actualité quand même assez récente. Il y a une école qu'elle a fréquentée pour son secondaire qui a fait l'actualité l'année dernière. Donc, elle fait le parallèle entre elle qui fréquentait cette école-là il y a plusieurs dizaines d'années, quelques dizaines d'années, je devrais dire. Et l'année dernière, il y a quand même eu de très grands changements, des changements démographiques, entre autres, aussi peut-être l'effritement de nos différents services. L'école publique de cette époque-là n'est plus la même école publique que maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que ça va être super intéressant de recevoir Rouba Ghazal la semaine prochaine à la Librairie La Liberté. Ce sera mercredi le 4 février dès 17h.
Et pour voir l'ensemble de la programmation des événements de la librairie, on vous invite à voir tous les détails sur librairielaliberté.com ou sur vos réseaux sociaux, Librairie La Liberté. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre pour être à l'affût de toutes les nouveautés puis de l'actualité de la librairie.
De tout, de tout.
Et, comme mot de la fin...
Le 10% de rabais pour les étudiantes, les étudiants sur présentation de la carte avant transaction. On est situé au 1073 de la route de l'Église. Puis, n'oubliez pas de participer au défi lecture 2026. Je vous encourage grandement à vous mettre au défi pour cette année. Puis, la prochaine fois, comme je vous disais, on parle du prix Jacques Brossard.
Merci grandement, Julie. Et on se retrouve dans 2 semaines.
Oui, oui.
Et pour notre part, on va aller en courte pause publicitaire. Et au retour, on va parler avec le programmateur des salles Grizzly Fuzz et l'Impérial Bell, David Ouellet. On va parler des événements à venir dans ces deux lieux. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
C'est beau coin extérieur, le tir.
La marche va plus loin! 2-1! C'est terminé! Les Remparts remportent la Coupe Memorial!
Les Huskies sont domptés! La gratte est passée! Le Rouge et Or de l'Université Laval remporte la 11e Coupe Vanier de son histoire!
Le Rouge et Or remporte sa 12e Coupe Vanier! Sacré champion!
Chiz 94.3, la radio des champions à Québec.
Ouf! OK, on vient clairement d'arriver quelque part.
Préparez-vous à explorer.
T'as entendu ça? Nouvelle destination, nouvelle musique.
Accès autorisé.
On est arrivé où exactement?
Dans un monde qui te transporte depuis 10 ans et chaque nouveauté est une nouvelle escale.
Le monde d'Éric Asselineau, 10 ans. Les dimanches entre 19h et 21h à Chiz 94.3.
Fans de l'ombre vous invite à découvrir des autrices qu'on a trop souvent mises de côté dans l'histoire littéraire.
Chaque semaine, partez à la rencontre d'une autrice méconnue, oubliée, ayant écrit dans les marges ou n'ayant laissé pratiquement aucune trace.
Au programme, des recherches littéraires, des recommandations de lecture, un segment médical et des invités sporadiques.
Retrouvez-nous tous les jeudis de 14h à 14h30 sur les ondes des Chiz 94.3.
Bisous!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Échos de la Résidence, le tout nouveau podcast présenté en collaboration avec le service de résidence de l'Université Laval et la radio Chiz 94.3 FM. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui vivent, travaillent et font battre le cœur de nos résidents et résidentes. Les Échos de la Résidence avec Narcisse, tous les lundis de 13h à 14h sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Passe d'abord, c'est bien fait! Le tir est le but!
Ce mercredi 28 janvier, les Remparts de Québec visitent les Tigres de Victoriaville à 19h sur nos ondes. Rejoignez Rick Loutier pour l'avant-match dès 18h45. Remparts, Tigres, mercredi à 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
L'ACADEL, c'est ton association étudiante à l'Université Laval. Avec plus de 35 000 membres, nous défendons tes droits, offrons des services pratiques et créons des activités qui font vibrer la vie de campus. L'ACADEL est là pour t'accompagner, t'inspirer et surtout booster ta session.
Finalement, il veut de l'argent.
Rolex, ça me crache sur la mode. Il préfère suivre son propre tempo. Alex a fait un trip de trop. Alex voit la vie en morceaux. Alex regarde trop de Alexa, dis-moi où je suis. Alex m'a donné trop de tout. Mes yeux fonctionnent plus, tout est flou. Je pense que je suis devenu fou.
Robert, vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive, ici sur les ondes de Chis 94.3 et nous a rejoint en studio pour nos chroniques mensuelles qu'on recommence pour l'année 2026. David Ouellet, programmateur chez Bleu-Feu dans les salles Grizzly-Foz et l'Impériale Belle.
Mais voilà.
Mais voilà.
Ça va bien?
Ça va super bien. Très heureuse de recommencer l'année. À
ben oui, ben oui. Pareil. Merci pour pour l'accueil encore une fois, en fait.
Ça fait plaisir. Gros mois de février dans la ville de Québec. Je veux dire, tu sais, comme, oui. Je pense que on s'entend qu'il se passe beaucoup de choses entre le mois multi qui commence, le fuck-off, rideau. Il se passe beaucoup de choses. C'est
plus la programmation
cool.
régulière.
C'est ça.
Puis fuck-off, toutes les salles de Québec ou presque du moins en Basse-Ville, en Barque, en Haute-Ville aussi pour des vitrines. C'est un gros buffet de très bonne musique pendant un 4 jours comme bien, bien cordé là, qui en valent au moins 8, mettons.
Mm-hmm, Définitivement, ben, comme on commence avec le Grizzly Fuzz.
Parlons du Grizzly.
Parler, avant de recevoir quand même le Fuck-Off et Rideau au Grizzly Fuzz, il y a quand même quelques événements là, qui ont lieu dans les prochaines semaines pour ouvrir le mois de février.
Ben oui, en fait, ça commence jeudi prochain avec le retour des apéros pleine lune. C'est le principe pour ceux et celles qui ne sauraient pas, c'est super simple. 5h30 le soir, les portes ouvrent. 18h30, le ou la DJ embarque. Cette soirée-là, on a PY qui revient avec Tall and Skinny, DJ de Montréal, qui est vraiment, vraiment bonne dans ce café.
Puis pour ceux et celles qui étaient au Phono cette année, oui. Tall and Skinny faisait partie de la programmation du festival Phono.
Était aussi au Cyrock XP. Ouais. Ceux qui ont vécu le Benjo Tronic étaient là aussi avec Sassafras. Ils faisaient un B2B. Bref, excellente DJ, les deux, elle puis PY, ça va être l'enfer. Fait que les deux deux embarquent à 6h30, je sais plus dans quel ordre, là, ils s'échangent ça les deux. 21h30, c'est terminé. 10h, tu manges ta poutine. 10h30, t'es couché. 8h, le cadran sonne, tu vas travailler. Frais comme une rose. Fait que ça commence comme ça le jeudi prochain, le 5. Ensuite, très très bon show à venir aussi quelques jours après, le 12 février, on a les amis en fait de Milk and Bone qui reviennent au Grizzly Fuzz pour une deuxième fois. La première fois, c'était sur Saint-Roch XP, pas qu'on vient de passer, mais l'autre, là, il y a un an et presque et demi, on va dire. Mm-hmm. Donc Milk and Bone, Little Lucky, leur nouvelle tournée, ils ont travaillé les tunes avec nul autre que Chromeo, fait que c'est du très 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 bon matériel pour ceux qui l'ont pas encore écouté, là, c'est disponible sur toutes les bonnes vieilles plateformes. Donc spectacle Milk and Bone, niaisez pas trop, il reste encore des billets, mais ça part. Puis il va y avoir une première partie annoncée sous peu, là, je pensais pouvoir vous l'annoncer aujourd'hui, fait que là je vais me contenter de titiller puis de pas en dire plus parce que c'est pas encore confirmé.
Mais envoyez des bonnes ondes parce que ça va être bon. Si c'est ce que tu me dis, ça va être une excellente première partie.
Ça devrait être un bon mix.
Totalement là, dans l'ambiance de Milk and Bone.
100%. Puis c'est quelqu'un que vous avez déjà vu, là, si on veut donner quelques indices, là, l'artiste féminine que vous avez déjà vu à Québec quelques fois dans plusieurs contextes. Ensuite, c'est le début en fait du volet pour nous du volet collaboratif avec les amis du Fuck Off, parce qu'ils ont aussi le volet en billetterie avant le festival de vitrine, là, pour le dire comme ça. Donc le 13 février, on reçoit Robert, c'est une coproduction ou coprésentation si on veut de Fuck Off et de Bleu Feu avec Grand Eugène en première partie. Il reste plus beaucoup de billets, je pense qu'il reste peut-être une centaine de billets, pas plus, puis ça part quand même vite dans les derniers jours, mettons, fait que niaisez pas là-dessus non plus, ça va vraiment être bon. Je sais pas si vous avez entendu le dernier album de Robert.
Ouais, qui est paru cet automne. Là.
Mais c'est du Robert à son meilleur, à mon avis, du moins. Là.
Pour les gens qui sont fans de musique électro et de pop, là, Robert excelle vraiment dans son domaine.
Oui, c'est ça. C'est un DJ avant, tu sais. Il en fait encore aussi, mais je veux dire, c'est un très, très bon DJ, puis ça se reflète dans sa musique. C'est pas quelque chose qui se fait beaucoup au Québec, puis il le fait très bien, et de mieux en mieux, même. Mm-hmm. Fait que, bref, ça va être un super show avec les amis du Fuck Off. Très content qu'on fasse ça ensemble, d'ailleurs. Puis ensuite, on rentre dans le fameux tourbillon Fuck Off, Rideau.
C'est ça. Fait que là, on va expliquer aux auditeurs tous comment ça va se passer. Là. Parce que là, Rideau, les vitrines de Rideau sont gratuites de ce que
j'ai compris. Oui, c'est les entrées libres. Ouais,
les entrées libres se passent chez vous au Grizzly. Et c'est du 15 au 18 février. Et c'est à partir de 19h30
oui, c'est ça.
Que les gens peuvent venir.
Puis ensuite, en fin de soirée, mettons à partir de 22h-ish, 22h30, je pense, là, c'est le Fuck Off qui prend possession de la place, avec encore des artistes en série, là, 3 ou 4 artistes par soir. En toute honnêteté, je m'occupe pas de ce pan de programmation-là, évidemment. Là, c'est Fuck Off qui gère ça. Donc, je l'ai pas par cœur. Mais du très, très, très bon stock de 22h30 à genre 1h30, 2h du matin. Là. Il y en a pour tout le monde.
Mm-hmm, vraiment, pour tous les styles. Puis ce que moi, j'adore avec les vitrines, c'est que c'est vraiment un espace où vous pouvez, si vous êtes friand de découvertes musicales, que vous aimez voir les projets de la relève, de voir ce qui se passe de nouveau, c'est vraiment des bons moments là, pour le Fuck Off. Puis si je fais une comparaison maintenant avec Rideau, Rideau a une programmation qui est plus multidisciplinaire. Fait que vous pouvez voir de la danse,
Du théâtre, des spectacles jeunesse, du cirque.
On le dit en même temps, du cirque, de la musique également aussi. Puis dans les deux cas, autant le Rideau que le Fuck Off, il y a des artistes locaux, mais aussi des artistes de l'international.
Oui, ça arrive aussi, 100%.
Qui viennent. Fait que vraiment, tu sais, pour nommer quelques entrées libres là, que moi, qui avait attiré mon attention. Le dimanche, le 15 février, il y a Sten C.H. Qui va être là, excellent artiste. Il y a aussi une vitrine avec Marie-Céleste qui ont fait le Fuck Off l'année dernière. Il y a également les Shirley. Ce n'est que pour vous en nommer quelques-uns là, que je vois rapidement.
Puis si vous allez regarder l'affiche du Fuck Off, c'est une lecture en soi. Là.
C'est ça. Ça, c'était pour Rideau, mais oui, sinon, pour Fuck Off, c'est ça. Ce que j'aime, c'est qu'à chaque soirée, chaque salle a comme un peu ses thématiques, puis que vous soyez fan de hip-hop, que vous soyez fan de pop, de metal.
Oui, c'est ça, il y en a pour tout le monde.
De post-rock, post-punk et de folk, ben, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Puis, ce qui est cool aussi, tu sais, Fuck Off, ça fait une dizaine d'années, je pense que ça existe. Puis il y a beaucoup de groupes ou artistes qui sont passés là, qu'on a vu jouer devant 8, 12, 20 personnes, parce que c'était tard, parce qu'il fait moins 28. Puis on les voit aujourd'hui, 4, 5 ans plus tard, remplir des salles.
T'sais, 100%. C'est vraiment un espace pour découvrir là, des artistes qui vont faire pas mal jaser là, dans les prochaines années.
Fait que une fois cette tempête de décibels passée, pour le dire comme ça, on se rapporte au 28 février au Grizzly Falls, toujours. Perceval, c'est sold out. Il reste plus de billets, malheureusement, si vous avez pas eu la chance de mettre la main sur un billet. Mais ça va être complètement fou. On en parlait en dehors des ondes tantôt. C'est quelqu'un que je suivais il y a déjà 2-3 ans sur Instagram, en pensant que c'était un peu un meme ou une joke de gars qui fait juste des drops de techno avec des quotes de films québécois. Principalement, pas que, mais principalement. Mais non, ça s'avère qu'il s'est mis à faire des spectacles, à faire des petites salles, des plus grosses salles. Il est rendu qu'il fait des gros festivals à 5-10 000 personnes en Europe, en France principalement. Puis on a la chance de le recevoir au Grizzly Falls, sold out, 400 personnes. Ça s'est vendu vraiment vite. Ça va être...
Ça, c'est encore la preuve, parce que moi, quand j'ai vu ce show-là passer, ben, tu sais, en fait, j'ai vu ce show-là passer, puis pourquoi je le voyais passer, c'est parce qu'il y a plein de gens qui commentaient à la recherche d'un billet, puis que c'était vraiment comme les gens, ils cherchaient, puis ils étaient comme, hey, j'ai même pas vu ça passer, je le vois passer, puis c'est sold out. Puis ça, c'est la preuve de un petit rappel sympathique d'acheter vos billets à l'avance. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voulez pas vous retrouver devant une porte fermée. Je pense que ça a été le cas aussi pour Louadrian Cassidy.
Oui, deux soirs sold out.
Deux soirs sold out, puis deux soirs où des gens cherchaient des billets.
Ben oui. Puis les shows étaient super bons. Lou, son show est incroyable. Si vous l'avez pas vu, ça vaut la peine d'acheter un billet dans une autre ville, pas trop loin. Allez-y, là, c'est vraiment bon.
Puis si, est-ce qu'on transfère dans Imperial
Bay? Ben, on va faire février Impérial aussi. Tu sais, juste vite comme ça, aller faire un tour quand même, là, grizzlyfuzz.com pour la prog complète. Parce que mars, avril sont quand même chargés. Là, on va en reparler à mon prochain passage, I guess. Mais il y a beaucoup, beaucoup de bons shows. Puis il reste pas beaucoup de billets forcément partout. Tu sais. Mm-hmm. Fait qu'aller faire un petit tour sur le site web pour en savoir plus. Imperial Bell, maintenant, ben ça commence aussi le 2 février, en fait, il y a la Ligue d'impro musicale, un classique récurrent à l'Impérial, pardon.
Et ça, c'est pour y aller au moins une fois par année, là, quand c'est possible. C'est vraiment un événement unique qu'on a à Québec. L'ambiance est incroyable à chaque fois, à chaque lundi que la Ligue d'improvisation musicale
Québec. Le niveau de talent de ces musiciennes et musiciens-là, c'est hallucinant.
Ah, 100%. C'est... Si vous êtes fan de musique, mais que vous aimez l'improvisation, que vous aimez...
Être surpris,
avoir comment un impact justement dans la participation publique est vraiment invité à participer puis à choisir justement ben c'est qui son équipe ou son moment d'improvisation préféré là pour vrai un incontournable à Québec si vous êtes
jamais allé. C'est pas très cher en plus là, ça vaut vraiment la peine en début de semaine on va faire un petit tour là puis c'est génial. Ensuite, la programmation de spectacle plus standard, pour le dire comme ça, ça recommence le 7 février à l'Impérial Bell. On a eu Louadrian, dont on vient de parler jeudi, vendredi passé, qui était sold out. C'était délicieux comme spectacle. Là, on a Dean Lewis, qui fait aussi deux soirs sold out à l'Impérial Bell, les 7 et 8 février. Chanteur australien qui termine sa tournée mondiale à Québec, soit dit en passant. La veille, il est à Place Belle, puis ensuite, il finissait deux impériales, ou deux impériaux, comme on aime dire, back à back pour continuer de parler en français. Ensuite, ben, on retombe encore dans le fameux tourbillon rideau dont on a parlé tout à l'heure, sur les mêmes dates encore, du 15 au 18. Aller faire un tour, là, je vois pas nommer toutes les vitrines, mais il y en a quand même beaucoup.
Puis je me suis trompée tantôt, là, toutes les vitrines que j'ai nommées tantôt qui étaient au Grizzly, c'était à l'Impérial. Je me suis mêlée, c'est désolé, mais.
Je me suis dit, ça se rattrapera quand on sera rendu à l'Impérial.
Je me suis rendu compte après, j'ai comme, merde.
mais pour les intéressés, justement, on parlait de Shirley puis Marie-Céleste, entre autres. C'est le 18 février. Si vous avez envie de voir ça, ça vaudrait quand même la peine d'y aller. Marie-Céleste qui va être de retour en spectacle au Grizzly Falls, d'ailleurs, ce printemps. Vous irez voir sur le site web. Ensuite, toujours à l'Impé, 21 février, ben, on a le Punch Club, une autre récurrence classique à l'Impérial qui marche toujours très bien. Encore de l'impro, pas musical cette fois-là. C'est plus impro de rue, comme ils aiment le dire, mais ça donne un super bon show. Ensuite, on reste un peu dans le spectre de l'humour,
ouais,
mettons.
C'est ça.
Avec Maxime Gervais, c'était magnifique. C'est son nouveau show, son deuxième one-man show. Il vient présenter ça en première, la première à Québec, en fait. C'est à l'Impérial le 26 février. Ça non plus, il reste pas beaucoup de billets. C'est en formule cabaret assis, fait que ça limite la capacité des gens en partant. Ensuite, ben Claude Pelgag, incontournable, Claude Pelgag, en supplémentaire le 27 février.
Exact. Et puis son le spectacle de son dernier album Abracadabra, pour vrai, pour l'avoir déjà vu là, ça vaut vraiment
c'est
le détour.
C'est complètement fou.
Est-ce qu'il y a déjà une première partie qui est annoncée?
Ben oui, c'est Violette Pie.
Wow.
En solo, ça va être incroyable. Ça va être vraiment bon. Puis le show, pour vrai, si vous l'avez pas vu, il reste encore quelques billets. Là, je répète toujours ça, on dirait, mais c'est la vérité à
ouais,
chaque fois.
Ouais, c'est ça.
Le show est incroyable. La mise en scène, le décor, les musiciens, les costumes, la performance de Claude en soi.
Puis il y a vraiment une chimie avec ces musiciens, musiciennes, oui, qui est vraiment notable. Tu sais, des fois, quand on a un projet où on a, tu sais, comme Claude Pelgag, ben c'est le projet de Claude Pelgag, mais là, ils sont... Toutes ces musiciens, musiciennes font vraiment...
Oui, oui.
Sont pas en background.
Non,
là,
c'est
sont...
un band. Là.
C'est ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup.
Oui, puis tout le monde a son moment de gloire, tu sais. Ouais. Pas forcément avec un solo, mais des arrangements, des accords bien plaqués. C'est vraiment bien foutu comme show,
c'est
pour vrai.
C'est toute une expérience, là, oui. Vraiment.
Ensuite, on continue. Un dernier pour finir la programmation de février à l'Impérial. Bleu Jeans Bleu, qui sera de retour avec un nouvel album, nouveau spectacle. Ça se passe super bien, ça aussi. Ça va être un bon show, les classiques. Qui vont y passer. Le nouvel album, je dois avouer que j'ai pas encore écouté au complet, fait que je peux pas vraiment me prononcer. Puis ça va être... j'ai un gros blanc de mémoire. Émile Bourgeau,
oui.
En première partie.
Et sinon, ben peut-être qu'on peut déjà nommer quelques spectacles là, en mars, là, rapidement, là,
oui.
Qui ont lieu. T'sais, que je pense que peut-être pour si vous écoutez en ce moment, ce message est pour vous, pour vous dire ok, ben là faut pas que je niaise parce que ça va probablement sold out dans les prochains temps.
Oui, ben oui.
Des gros shows là qui vont avoir lieu autant au Grizzly qu'à l'Impérial. Si je me replonge un peu au Grizzly Fuzz, il y a Population 2 qui va être en spectacle.
Oui,
le
avec
7 mars.
Alex Ferns en première partie, puis ça va être ça c'est. Perso, c'est pas mal un des shows que j'ai le plus hâte de voir dans la. C'est ce qui est le plus proche de mes goûts personnels, on va le dire comme ça. Là.
Mm-hmm.
Ça, j'étais vraiment, vraiment heureux qu'on puisse le faire. Il y a Kinji aussi qui est à voir début mars. Un nouveau phénomène dans le. Ben, un nouveau phénomène. Ça fait déjà un an et demi qu'il fait ça, mais le gars, il est vraiment pas vieux. Il se dit le. Comment il dit ça? Pas le prince, là, mais le nouveau sultan de la souveraineté, là, on va le dire comme ça. C'est pas le bon terme, mais ça m'en revient pas. Donne un super show aussi avec son frère comme DJ, Grizzly Fuzz, le 5 mars.
Il y a Lemon Bucket Orchestra aussi. Ça, c'est...
Ouais, ça, c'est un party en soi.
Ça, là, c'est la fête. Là. C'est vraiment ouais. Un party. Vous aimez justement la musique qui fait danser, qui a le goût d'être ensemble. Il y a un effet vraiment rassembleur avec Lemon Bucket.
Il y a des brass, guitare, basse, drum, percussion, son genre 11 sur scène.
Ouais.
Ils débarquent de scène pendant le spectacle. Ils font le train en jouant de la musique à travers la foule. C'est vraiment un truc unique qu'on voit pas ailleurs. Ils roulent leur boss depuis super longtemps. Puis c'est efficace. T'as pas besoin d'avoir un genre de musique préféré pour aimer
non,
ça.
Non, parce que ça unit plein d'influences musicales différentes, que ça passe autant par le punk, le hip-hop, la musique traditionnelle ukrainienne,
puis ils font
des
reprises à travers ça, puis tu sais, c'est vraiment un bon show, pour vrai.
À mettre à votre argent. Ça, c'est comme quelques-uns que j'ai vus qui ont moi, personnellement, attiré
ouais,
mon attention.
Il y a Lights aussi, le 19 mars, qui va être un très, très bon show avec Soft Cult en première partie.
Soft Cult, ça aussi c'est très, si
incroyable.
Vous ne connaissez pas, ouais. très bon band également.
Puis juste, je le mentionne là, vite, parce que je ne veux pas prendre tout le temps d'antenne non plus, mais on va avoir de la lutte au Grizzly Fuzz le 21 mars avec la NSPW, le Undisclosed 14, puis fait à noter, 100% des matchs seront dans une cage.
Ah, oh, ouais!
Puis ça va être ambiance Fight Club, on va dire. Tout le monde debout autour du ring.
Ouais, puis ça va être au milieu, comme vous faites pour les apéros pleine lune.
Exactement, exactement. Les lutteurs vont arriver par la scène, ils embarquent dans la cage, puis ça part, comme on dit. Ça va être une grosse soirée, ça.
On note pour les fans de lutte, c'est à mettre à votre agenda.
Oui, c'est vraiment pas cher, by the way, là, un petit 20$, puis tout inclus, on rentre, puis on vit un truc qu'on vit pas souvent, disons, tu sais.
Ouais, puis pour ceux et celles qui ont jamais vu un match de lutte, là, c'est tellement... C'est une expérience vraiment...
Moi, je suis un fan fini de lutte.
Ah ouais,
ouais,
hein?
Ouais, ouais. J'ai pas comme de lutteur préféré, ouais, mais l'ambiance en soi, là, c'est... C'est fou. Tout le monde devient des amis. Tout le monde laisse un peu son cerveau au vestiaire avec le manteau.
100%.
Puis tout se dit plus ou moins. Là, c'est l'interaction avec les lutteurs, lutteuses, le public. Pour vrai, c'est vraiment un truc à vivre.
C'est là. Vraiment un moment où que tu peux te défouler là,
ouais.
à 100%. Ouais. Ben, pour voir l'ensemble de la programmation, autant ben, de l'Impérial Bell, c'est Impérial Bell. .com.
Voilà, puis sinon grizzlyfuzz.com. Puis j'aurais envie, si ça vous tente, de faire tirer une paire de billets.
Ah ben là, ma gang de chanceux qui sont à l'écoute.
Pour le spectacle de Milk and Bone, le 12 février.
Alors, si vous êtes à l'écoute, chers auditeurs, auditrices, ben on va peut-être, je vais peut-être insérer une petite chanson là,
ben
en
oui,
même
ben
temps
oui.
qu'on se parle. Si vous êtes à l'écoute et que vous voulez aller voir le spectacle de Milk and Bone, le spectacle de leur nouvelle EP, A Little Lucky, qui se passe au Grizzly Fuzz le 12 février, vous pouvez m'appeler dès maintenant au 418-656-2215 pour gagner une paire de billets pour voir Milk and Bones. Oh, on part. Ouais, gars, ça part. Il y a déjà quelqu'un qui appelle.
Thank you.
dans le passé avec la chanson Set in Stone de Milk and Bones qui vont être, je vous rappelle, en spectacle le 12 février au Grizzly Fuzz. Merci à Christophe qui a appelé. J'ai même pas eu le temps de mettre la toune qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait appelé. Merci d'être à l'écoute de Chérie J'arrive. Et merci à toi, David.
Ben, merci à toi. Ça fait super plaisir.
Puis on se retrouve le mois prochain pour parler des prochaines updates.
Oui,
des
gros
shows.
Mois à venir, mars-avril. Ben, ouais. C'est une grosse saison, en fait. Hiver-printemps, là, il y a beaucoup de bons stocks.
Mm-hmm. Puis pour aller voir là, sur le site, autant du Grizzly Fuzz que de l'Imperial Bell, vraiment des bons shows, des bons shows à mettre dans notre agenda culturel. Merci, David.
Ben, merci à toi. Salut.
Pour notre part, on se retrouve au retour de la pause. On va parler littérature avec Alex Tremblay-Lamarche.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, Les Architectes du son.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Bienvenue à votre session de braillage hebdomadaire. Ou pas, on sait pas. Une fois de temps en temps, là. Mais moi et Kevin vous présente le meilleur de la musique emo d'hier, de maintenant et de demain. Sur les ondes de Chiz 94.3, quand ça nous tente.
Vendredi le 30 janvier, rejoignez-nous lors du vernissage de l'exposition collective Murmures de l'invisible dans le cadre de la 27e édition du Mois Multi. Au programme, des entrevues avec Pierre et Marie, Les, Théâtre Rue d'Ingénierie, E27 Musique Nouvelle et Morgane Baffier. Chérie, j'arrive au Mois Multi, ce vendredi dès 16h en direct du café d'Ex-Muro et sur les ondes de Chiz 94.3.
Étudiants et étudiantes du 2e et 3e cycle, connais-tu ton asso étudiante, l'Allier? Nos bureaux sont situés à la Maison Marie-Sirois du 2320 rue de l'Université. Nos heures d'ouverture sont les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les mercredis, nos bureaux sont fermés et vous pouvez nous envoyer un courrier à allier@allier.ulaval.ca.
Anne-Laurie Didaté, âge inconnu, Vadsø, Norvège, 16 février 1621. Accusée de pratiquer la sorcellerie, a été soumise à l'épreuve de l'eau, hors d'Ali, et a flotté. Jugée coupable de pratiquer la sorcellerie, condamnée à la mort par le feu sur le bûcher.
Premier acte, en collaboration avec le Moi Multi présente, Féminicide, une histoire mondiale. Une production du Théâtre d'Olympie, d'après l'ouvrage dirigé par Christelle Tarot, du 27 janvier au 7 février 2026. Pour les billets, visitez premieracte.ca.
Premier acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse des Jardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire, Hydro-Québec, Le Soleil et la Fabrique culturelle.
Le festival Le Focus est de retour à Québec du 13 au 21 février prochain pour sa 12e édition. Présenté par SiriusXM, cette grande célébration de la musique émergente et alternative fera vibrer la capitale avec près de 100 artistes. Viens faire le plein de découvertes musicales et entendre notamment Gambé, Afternoon Bike Ride, Laura Nikwe, Mess et Wizard. Tous les détails au focoff.com.
T'as envie de t'éclater puis renforcer les liens de ton équipe, de vivre une expérience hors du commun? L'École du Rock Ambition a la solution pour toi. Que ce soit entre collègues ou entre amis, venez participer à une activité de 2 ou 3 heures, durant laquelle vous ferez partie d'un véritable groupe de rock. Et on finit le tout avec une session d'enregistrement. Faites vite, nos calendriers se remplissent rapidement. Informations au ambisson.com.
Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive à votre retour culturel ici sur les ondes de Chiz 94.3 et nous a rejoint en studio votre chroniqueur littérature historique, Alex Tremblay-Lamarche. Bonjour, bonjour.
Bonjour, Noémie.
Alors, comme à chaque semaine, là, tu me fais tout le temps un petit lien là, avec l'actualité et tes recommandations littéraires. quel est l'événement marquant de tes derniers jours? Il y en a, puis il pourrait en avoir plusieurs.
Oui, il y en a beaucoup. Il y aurait de quoi faire 6 émissions sur la situation politique aux États-Unis.
Ouais, c'est ça.
Mais j'ai décidé de m'attarder à la malheureuse déclaration de Mark Carney sur l'histoire, après avoir fait un discours qui est passé à l'histoire ou qui passera peut-être à l'histoire, serait peut-être plus juste, au Forum de Davos. Il a mentionné à Québec que le Canada est né sur les plaines d'Abraham dans un esprit de collaboration. C'est plutôt effectivement maladroit. Et donc, 4 ouvrages qui traitent de comment est-ce qu'on fait l'histoire et de où est-ce qu'on s'en va sur le plan historique.
Alors, premier ouvrage que tu nous présentes, c'est « L'histoire dans la peau » de Félix Bouvier.
Ouais, c'est pas de Félix Bouvier, c'est de Stéphane Martineau, mais c'est quand même de Félix Bouvier par la bande, parce que l'ouvrage « L'histoire dans la peau, Félix Bouvier s'entretient avec Stéphane Martineau », eh bien, c'est un entretien. Donc, Stéphane Martineau, ancien professeur à l'UQTR, pose des questions à son ancien collègue Félix Bouvier, et Félix Bouvier y répond. Mais la première question, bien entendu, c'est de qui c'est ça, Félix Bouvier? Félix Bouvier, pour les historiens ou pour les gens qui s'intéressent à l'enseignement de l'histoire plus spécifiquement, c'est une référence. Il est l'auteur de plus d'une quarantaine de publications, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça. C'est assez impressionnant, effectivement, la quantité de... La quantité d'ouvrages, la quantité de manuels scolaires, 5 manuels scolaires, 5 contributions à des actes de colloque, 8 ouvrages rédigés seuls ou en équipe, une douzaine de chapitres dans différents ouvrages collectifs. Et il a vraiment joué un rôle assez important dans la transmission de l'histoire au Québec, en étant professeur de didactique de l'histoire. Donc, comment est-ce qu'on enseigne l'histoire à l'UQTR? Et son collègue Stéphane Martineau voulait revenir sur le passage de Félix Bouvier. Donc, comment est-ce qu'on devient non pas un professeur d'histoire, mais un professeur qui enseigne comment enseigner l'histoire. Et donc, c'est ce que propose cet ouvrage.
Puis, y a-t-il des spécificités dans laquelle celui-ci se qualifie, tu sais, au niveau historique? Est-ce que on aborde un peu toutes les thématiques comment est-ce que celui-ci enseigne l'histoire?
Un peu, mais je dirais on est beaucoup dans le parcours personnel de Félix Bouvier. Donc, on voit comment son passage en Afrique pendant 3 ans, alors qu'il est enfant, va influencer sa perception du monde. Il découvre une Afrique qui, dans les années 60-70, est encore marquée par le colonialisme, même si, techniquement, on s'en affranchit à l'époque avec beaucoup de pays qui se sont libérés du colonialisme sur papier. Mais on a encore ces enseignants blancs qui, ont intériorisé une certaine forme de racisme, etc. Donc, on voit comment ça le marque. On voit également ses études à l'Université de Montréal avec Maurice Séguin, qui est un professeur qui a beaucoup défendu la thèse de la décapitation des élites après la conquête. Également, l'idée que le sort du Québec est un petit peu lié à son nombre. Comme on est minoritaire en Amérique du Nord, on est condamné dans une certaine mesure à disparaître. Donc, un des ténors du mouvement nationaliste en histoire. Donc, on voit comment Félix Bouvier a été influencé par ce maître à penser. Puis, à l'époque, la didactique de l'histoire est encore à ses débuts. Et donc, il passe d'abord, effectivement, par l'enseignement. Il va enseigner à Mont-Laurier l'histoire au secondaire. Et il va quand même continuer à être intéressé par les études supérieures autour de lui, notamment sa belle famille. Il y a beaucoup de gens qui font des études doctorales. Il y a également, beaucoup de gens qui font des études dans sa famille. Son père était professeur, etc. Et donc, il va garder cet intérêt. Et ça va l'amener à retourner aux études pour faire une maîtrise qui va être quand même un petit peu difficile pour lui, puis un doctorat qui va mieux aller. Un doctorat qui s'intéresse à l'histoire de l'éducation à Mont-Laurier, ville où il enseigne. Puis son entrée à l'UQTR, où il va jouer un rôle vraiment comme professeur auprès des futurs enseignants en histoire. Donc, c'est un petit peu son parcours qu'on retrace. Je dirais que on est parfois un petit peu trop dans des détails sur son parcours et l'aspect... on aurait gagné à être capable de généraliser un petit peu les choses puis d'en faire un exemple de en quoi ce parcours-là ben, nous permet de comprendre l'évolution de la didactique de l'histoire, alors que ben, cette couche-là, trop, à mon avis, elle aurait gagné à être davantage développée. On est trop dans l'entrevue. Ça aurait été intéressant, effectivement, de voir en quoi Félix Bouvier est représentatif des gens de sa génération qui ont étudié la didactique de l'histoire et en quoi, ben, sur d'autres plans, il ne l'est pas. Donc, de contextualiser peut-être un petit peu davantage ses réponses. Malgré tout, effectivement, ben, on est dans quelque chose qui nous donne le parcours d'un didacticien de l'histoire. Donc, pour ceux qui enseignent au secondaire, pour ceux qui veulent savoir comment est-ce qu'on enseigne l'histoire, ben, c'est un petit livre qui se lit assez bien sous la formule de questions-réponses.
Pour le deuxième ouvrage que tu nous présentes aujourd'hui, c'est sur la pratique de l'histoire de Martin Paquette.
Martin Paquette, professeur au département des sciences historiques de l'Université Laval, c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à la manière dont on enseigne l'histoire. Qu'est-ce que la discipline historique? Et il parle davantage de discipline historique que de l'histoire elle-même, parce qu'il dit ben, la discipline historique, c'est un peu comme le judo, c'est un peu comme n'importe quelle autre discipline artistique ou sportive, c'est quelque chose qui s'acquiert en pratiquant. Et donc, il y a une nécessité de se placer dans un état d'esprit, etc. Et bon, ben, Martin Paquette, il réfléchit à qu'est-ce que l'histoire? Quelle est la place de l'histoire dans l'espace public? Comment est-ce qu'on pratique l'histoire? Donc, c'est un ouvrage qui est à la fois intéressant pour des historiens comme moi qui, bon, se pose des questions sur comment on fait de l'histoire, mais qui va aussi intéresser monsieur, madame, tout le monde, parce que, bon, on se penche notamment sur toutes les questions, bon, de différence entre la mémoire et l'histoire. Donc, par exemple, ben, faire l'histoire de John A. McDonald, c'est une chose. Choisir d'avoir une statue de John A. McDonald dans un parc, c'en est une autre. Et donc, même chose, bon, qui est le fondateur de la ville de Québec? Est-ce que c'est Samuel de Champlain, Pierre Dugas-Demont? Là, encore une fois, ben, on voit comment l'histoire peut devenir polémique, peut susciter des débats dans l'espace public. Et c'est l'un des intérêts de l'ouvrage, c'est que, bon, ben, il s'appuie beaucoup sur des exemples québécois. Et quand je dis québécois, c'est autant du Québec que de la ville de Québec, tout en replaçant ça dans une perspective beaucoup plus globale. Et ben, il nous permet de comprendre vraiment comment est-ce qu'on pratique l'histoire, comment est-ce que l'historien peut être un citoyen engagé, peut jouer un rôle effectivement dans la construction du débat public, peut être capable de venir démêler un petit peu les choses. Et donc, moi, c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé parce que c'est accessible tout en poussant la réflexion sur qu'est-ce que l'histoire, qu'est-ce que le débat sur le passé. Comment est-ce qu'on peut ben, le placer dans l'espace public?
Puis est-ce que ça donne un peu des pistes de, pas de solutions, mais de pour ceux et celles qui, mettons comme moi, ne sont pas historiens, historiennes, mais qui s'intéressent justement à l'histoire de comment bien s'informer ou comment bien faire ses recherches pour être justement plus informé sur notre histoire et peu importe le fragment historique qui nous intéresse.
Tout à fait. Je pense que c'est l'un des intérêts de l'ouvrage. C'est oui, effectivement, ça va intéresser les historiens, mais ça va intéresser les gens qui, bon, s'intéressent à l'histoire, mais ne sont pas historiens de formation et qui se demandent, qu'est-ce que l'histoire? Oui, je lis des livres sur la Deuxième Guerre mondiale,
ouais,
sur l'histoire de la Nouvelle-France, peu importe le sujet, sur l'histoire des femmes. Mais bon, au-delà, effectivement, de se faire raconter une histoire, de lire ces faits-là sur ces personnages-là, comment se pratique la discipline. Il y a tout le travail justement que, bon, ben, tu sais, faire de l'histoire, c'est mener une enquête, c'est aller en archives, c'est être capable de faire des vérifications, c'est avoir un esprit critique, c'est après être capable de faire un travail de synthèse, puis être capable de le diffuser en fonction du public à qui on le diffuse. On ne le diffusera pas de la même manière si on est dans un colloque savant que si on est dans un musée ou si on est face à un groupe scolaire. Et donc, il y a tous ces enjeux-là qu'il aborde sur la manière dont on fait de l'histoire, on fait de la discipline historique et sur tous les débats qu'on retrouve autour de la manière dont on pratique l'histoire. Lorsque j'étais au baccalauréat, ben, j'avais suivi un cours avec Martin Paquette sur l'histoire de l'histoire. Donc, l'histoire au palais de justice. Non, en fait, c'est l'histoire aujourd'hui que ça s'appelait. aussi suivi Histoire de l'Histoire avec lui, mais ça, c'est autre chose. Donc, l'histoire aujourd'hui, quels sont les débats liés à l'histoire? Et vraiment, cet ouvrage-là m'a permis de replonger dans ce cours-là que j'avais beaucoup apprécié, qui nous avait amené à dire, bon, OK, là, tu viens de faire un bac en histoire, mais maintenant, en fait, ben c'est quoi le rôle de l'historien dans l'espace public? C'est quoi le rôle de l'historien au palais de justice? C'est quoi le rôle de l'historien dans les débats sur la mémoire? C'est quoi le rôle de l'historien dans la commémoration? C'est quoi le rôle de l'historien dans le jeu vidéo, dans la littérature, dans tous ces espaces-là? Et donc, il y a beaucoup de ce cours-là que j'avais particulièrement apprécié, qui, bon, était un peu de la philosophie de l'histoire, que j'ai retrouvé dans cet ouvrage publié au Boréal et que je vous recommande vivement.
Pour le troisième ouvrage que tu nous présentes aujourd'hui, c'est « S'affranchir de l'histoire de Thomas Domange ».
Oui, ben maintenant qu'on a parlé de comment faire l'histoire, comment réfléchir sur l'histoire avec Martin Paquette, ben je vous propose de sortir de l'histoire. Et bon, Thomas Domange, c'est un Français né à Strasbourg en 1969 qui est de parents, justement, bon, qui vient de l'Alsace. Et donc, ses grands-parents étaient allemands. Lui, c'est un francophone de naissance, alors que ses grands-parents étaient germanophones, etc. Donc, on sent un petit peu toute son histoire familiale dans son rapport à s'affranchir de l'histoire. S'affranchir de l'histoire. Pourquoi s'affranchir de l'histoire? Ben, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, ben, ont envie de laisser leur trace dans l'histoire. Ont un rapport à l'histoire comme quoi que c'est important d'être dans l'histoire, d'être un personnage historique, de donner un sens à sa vie par l'histoire. Et bon, ben, quand on sort de ça, ben, est-ce que la vie a encore un sens? Juste vivre, est-ce qu'effectivement c'est suffisant pour qu'il y ait un sens à la vie? Et par s'affranchir de l'histoire, justement, ben, ce qu'il propose, c'est un essai où il dit que, bon, ben, les Québécois seraient peut-être les premiers à avoir réussi à s'affranchir de l'histoire, à accepter effectivement de vivre une vie ordinaire qui, bon, va être agréable, va être sympathique, mais qui passera pas nécessairement à l'histoire et que, bon, ben, c'est correct comme ça et que, ben, il faut accepter effectivement ce devenir-là.
Est-ce que, ben, parce que c'est un essai quand même philosophique, est-ce qu'il y a le rapport à l'ego aussi dans l'ouvrage? T'sais, ou comme justement de comme est-ce que toutes les actions, je pense que ça a quand même une influence là, t'sais, l'ego, notre ego autant personnel que notre ego collectif là, par rapport à comment on veut avancer et marquer l'histoire, est-ce que c'est quelque chose qui est comme proposé dans comme piste de réflexion?
C'est une bonne question, puis c'est vraiment intéressant parce que on est vraiment davantage dans quelque chose de philosophique que tu le dis que quelque chose de psychologique. Donc, tu sais, ce qu'il aborde, c'est vraiment cette capacité qu'ont eu les premiers Blancs à s'installer ici, à vraiment se déconnecter peut-être un petit peu de l'histoire, d'arriver effectivement dans autre chose qu'un ego personnel, puis être plus dans le vivre. Il parle notamment, bon, de la rencontre avec les Autochtones qui, ben justement, c'est un petit peu affranchi de l'histoire aux yeux des premiers, effectivement, des premiers Européens à débarquer ici. Bon, cette rencontre-là, elle est en partie faite avec le prisme plein de billets des premiers Européens qui débarquent ici et qui, bon, idéalisent un petit peu les Autochtones en disant que, bon, ben, ils sont sauvages. Pas sauvages de manière négative, mais sauvages dans le sens qu'ils n'ont pas été contaminés par la civilisation occidentale et donc ils sont purs, effectivement, de toute cette civilisation qui vient avec ces biais, cette pression sociale, etc. Et donc, ben, ce contact-là aurait entre autres contribué à amener les Européens qui s'installent ici à se dire, ben, OK, ben, j'ai peut-être envie de ne plus mettre autant de pression, d'accepter de vivre une vie ordinaire. Autre chose sur laquelle il disserte, c'est notamment, bon, la devise du Québec, je me souviens. Il se dit, ben, si on met cette devise-là, c'est peut-être justement parce que on sent qu'il faut rappeler aux gens de se souvenir, alors que le Québécois moyen n'a peut-être pas tant envie de ça que de se souvenir, puis vit peut-être un petit peu plus dans le présent. Et donc, on est dans un ouvrage philosophique qui permet vraiment de voir le rapport des Québécois à l'histoire, l'évolution de ce rapport depuis la Nouvelle-France, et ben, également de voir comment, ben, un petit peu le triomphe de la vie ordinaire, puis ben, le triomphe d'une vie qui vise à sortir de la, ouais, juste vivre, à sortir de la pression effectivement de passer à l'histoire, la pression de marquer les mémoires et ben de s'affranchir de ça pour être capable de profiter de la vie tout simplement.
Et pour le quatrième et dernier ouvrage, dans lequel, où est-ce que tu nous amènes?
Je vous amène dans sur la voie du destin du Québec, trois axes d'une histoire. C'est un ouvrage de Claude Corbeau, publié aux presses de l'Université de Montréal. Claude Corbeau, bon, c'est un, je dirais, un politologue, historien un petit peu bien connu. Il a été professeur à l'Université du Québec à Montréal. Il a également été recteur de cette institution. Et si je ne m'abuse. Et donc, il a publié quand même pas mal de livres sur l'histoire du Québec, sur la politique au Québec. Et dans cet ouvrage-là, ben, il dit qu'il s'adresse à ses petits-enfants. Et il veut réfléchir justement sur où s'en va le Québec. Est-ce que le Québec, justement, est dans la bonne voie? Est-ce que, bon, le Québec, justement, ben, c'est un peu ça, en fait. Il réfléchit à la manière dont réfléchit le Québec et où est-ce qu'on s'en va. Il le pense sur trois axes. L'axe démographique, l'axe politique, puis l'axe comportemental. Donc, l'axe démographique, dans un premier temps, ben, c'est rappelle la fragilité du Québec. Donc, ben, du fait qu'on n'est pas si nombreux que ça, ben, est-ce qu'on est voué à disparaître sur le plan culturel? Est-ce qu'on est voué à devenir, effectivement, à finir en pittoresque communauté linguistique régionale, pour reprendre ces mots. C'est une question qu'il pose. Ensuite, comme je mentionnais, il y a l'axe politique, donc il suit un petit peu l'évolution politique du Québec, puis comment ben on est passé d'une époque où on se définissait d'abord comme français, puis on va se définir comme canadien-français, puis on va se définir comme québécois, puis finalement, il va y avoir cette tension-là entre québécois et canadien, donc sur la manière, sur le projet politique qui est porté par le Québec. Et ben, sur le plan comportemental, ce qui l'intéresse, bon, ben, c'est notamment tout le rapport au nouveau débat, entre autres toute la question environnementale, toute la question bon du rapport des jeunes à la question nationale, qui est peut-être plus aussi importante qu'elle l'a jadis été. Donc, c'est ce dont il traite dans cet ouvrage.
Puis est-ce que tu le vois comme vraiment un texte qui est plus d'opinion slash de réflexion, ou c'est justement comme un ouvrage qui, suite à des recherches puis à différentes rencontres avec d'autres experts du milieu, qui en est découlé cet ouvrage?
Je dirais un peu des deux. La première partie où il parle davantage de l'histoire du Québec, il montre à quel point est-ce que ça a évolué vite, que bon ben on est rapidement sorti bon d'un carcan religieux, qu'on est effectivement allé dans un autre univers. Ben c'est plus effectivement de la recherche. Quand il parle bon des trois axes, l'axe politique, l'axe démographique, l'axe comportemental, là on est davantage dans l'essai, on est davantage dans des solutions qu'il propose, alors que bon ben quand il est dans ses autres chapitre où il parle un petit peu plus bon, de l'histoire du Québec, qu'il remet ça en contexte. Ouais. Là, on est effectivement plus dans l'essai historique, alors que bon, on est un petit peu plus dans l'essai politique quand on est dans les autres chapitres.
Mm-hmm. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a comme cet aspect-là de parcourir, de comme comparer de aujourd'hui au passé pour voir comment on a évolué, puis comment, en regardant justement notre histoire, comment est-ce qu'on peut percevoir peut-être notre futur, justement, puis se poser des rêves. Puis on sait que c'est quand même au cœur de l'actualité présentement, un peu la place du Québec ici. Fait que, ouais, merci.
Bien, ça a été un plaisir.
Est-ce que tu peux nous repartager les trois ouvrages que tu nous as présentés aujourd'hui? Quatre ouvrages, pardon, que tu nous as présentés aujourd'hui.
Pas de souci. Donc, l'histoire dans la peau, Félix Bouvier s'entretient avec Stéphane Martineau, un ouvrage qui revient sur la vie de ce pionnier dans le domaine de la pédagogie de l'histoire au Québec. C'est publié aux presses de l'Université Laval. Ensuite, on a parlé de Sur la pratique de l'histoire, un petit essai de Martin Paquette, publié chez Boréal. Montréal, qui revient sur qu'est-ce que le métier d'historien, quelle est la place de l'histoire dans l'espace public, comment est-ce qu'on fait ça, la discipline historique. Ensuite, j'ai parlé de S'affranchir de l'histoire, destin philosophique des Français en Amérique du Nord, de Thomas Demange, toujours chez Boréal. Est-ce qu'on peut aspirer peut-être à une vie ordinaire et cesser de se mettre de la pression pour vivre une vie extraordinaire qui mérite de passer à l'histoire? Donc, un retour sur comment cette idée-là s'est développée au Québec selon le philosophe Thomas Demange. Et finalement, Le destin du Québec, trois axes d'une histoire de Claude Corbeau, publié aux presses de l'Université de Montréal. Ce politologue, ancien recteur de l'UQAM, qui a beaucoup écrit tout au long de sa vie, ben justement, s'interroge sur le devenir du Québec dans le contexte où il y a de plus en plus de débats autour de l'écologie, des questions autochtones, etc. Et qu'il croise ça un petit peu avec la question nationale. Et donc, un ouvrage qui permet effectivement de réfléchir sur l'avenir du Québec.
Merci grandement, Alex. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique littérature historique. Et c'est comme ça, chers auditeurs, auditrices, qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute de Chérie J'arrive, votre retour culturel alternatif ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et aujourd'hui à l'émission, on a parlé à plein de personnes super intéressantes, en commençant par votre chroniqueuse, une de vos trois chroniqueurs, chroniqueuses de littérature ici à Chérie J'arrive, Julie Collin, qui est également responsable des événements et des communications chez la librairie La Liberté. Je vous rappelle que ceux-ci ont lancé le défi lecture 2026. C'est un défi de lecture qui va se terminer le 31 décembre 2026 et dans lequel vous gagnez la chance de gagner une carte cadeau de 50$ si vous lisez les 10 livres dans les 10 catégories proposées par le concours. Vous pouvez directement trouver le formulaire de participation sur leurs réseaux sociaux et sur leur site web. Sinon, on a parlé à David Ouellet, qui est programmateur au Grizzly Fuzz et à l'Imperial Bell. On a parlé des spectacles à venir dans ces deux salles pour le mois de mars. De février. On a également parlé un petit peu du mois de mars, mais pour voir l'ensemble de la programmation, je vous invite à aller directement sur leur site web de l'Imperial Bell et du Grizzly Fuzz et de les suivre sur les réseaux sociaux. Ceux-ci vont souvent aussi des updates des premières parties, des nouveaux shows annoncés et également des